cirque. Tu me veux simplement pour dire que c'est 28 heures qui a sonné. Donc à cause de ce qui va se passer juste à côté dans la chapelle, on chanteront très silencieusement, dans des soupirs, n'est-ce pas, dans les gémissements, la prière. Voilà. Et c'est pour juste dire simplement l'intention de la messe de ce matin. Juste l'intention. C'est l'intention de la messe. Ce que je propose à votre ferveur, à votre attention, à votre compassion, ça va vous paraître peut-être unusual, pas très habituel, mais je propose que nous célébrions la messe ensemble pour le deuxième témoin de l'Apocalypse, pour que nous ayons de plus en plus un lien avec le premier témoin de l'Apocalypse, c'est-à-dire le patriarche Hénoc. Après la chute de notre nature, il y a eu une pénitence. Adam, Abel et les hommes ont cheminé sur la terre dans un esprit d'amour de Dieu, de mémoire de Dieu, de sponsalité pure en Dieu. Il y a eu bien sûr des branches qui sont allées loin et qui ont mené l'humanité toute sainte du début. Elle avait péché certes, mais elle était revenue à une sainteté. Il ne faut pas oublier, quand Jésus est descendu aux enfers, Adam a été immédiatement canonisé, Ève aussi. Et il y a un lien entre nous et Adam et Ève. Souvent, on dit Adam et Ève, oui, ce sont nos pères. Mais on leur attribue notre déchéance. Notre déchéance ne vient que de nous. Ce qu'il y a et qui vient d'eux, en vérité, parce que notre péché originel à chacun d'entre nous vient de chacun d'entre nous. Puisque les plus immenses, profondes et puissantes libertés de notre vie personnelle ne se sont exprimées que dans notre innocence divine parfaitement actuée. Donc notre participation au péché originel a été dans le péché. La participation la plus libre qui n'a jamais été pour aucun autre péché de notre vie. Donc attribuer la responsabilité du péché originel à Adam et Ève, c'est très injuste. Il n'y en a pas avec les patriarches. Adam et Ève, une relation très juste, et encore moins dans notre génération d'aujourd'hui, qui est freudienne. C'est pas de ma faute, c'est de la faute d'Adam et Ève. Aujourd'hui, c'est terrible ça. Cet oubli que le péché originel, cet oubli de notre mémoire personnelle dans l'intériorité de notre âme qui palpite dans le oui, d'une liberté totale, d'une conscience d'amour parfaite, d'une proximité avec Dieu comme jamais, dans l'un, dans le corps originel, primordial, qui est une innocence divine d'amour béatifiante, Tu vas sans cesse plus loin à chaque pulsation, dans l'un et la transfiguration du don. Et puis, avec la propagation du péché originel, c'est très, très, très librement que nous avons cette curiosité d'y pénétrer. Très librement. Et Adam et Ève n'y sont pour rien. Et vous savez, vivre dans un monde psychologique, un monde psychique, c'est-à-dire échapper à la vie spirituelle, c'est pas très malin, mais c'est de l'athéisme. Parce que même ceux qui ne sont pas croyants veulent être spirituels. Ils veulent être humains, libres, dans la lumière d'intellect agent et dans un cœur libre. Pas besoin d'être croyant pour ça. Mais aujourd'hui, le dragon à 7 têtes, 10 cornes, a réussi, comme un boa, à absorber l'humanité, même l'humanité baptisée, dans son ventre métapsychique. Et une des têtes qui a absorbé par rapport à la mémoria dei, c'est Freud. On est tous psychiques. On est psy. Oh, on a des blessures. Ah, oh, ça vient de nos parents. Oh, j'ai pas été assez aimé. C'est pas de ma faute. C'est jamais notre faute. C'est toujours de la faute. On n'est pas responsable, on est victime. On a été blessé, vous savez, dans notre enfance, c'était pas facile. On a été persécuté par le percepteur. On a été persécuté par l'administration. On a été persécuté, c'est jamais de notre faute. On a été rejeté par l'évêque. On a été rejeté par l'évêque, on a reçu des grands coups. C'est mon mari qui est impossible. C'est ma femme qui est une ordure. C'est mes enfants qui ne me respectent pas. C'est toujours les autres. Hein. De rejeter sur les autres, ça vient du sentiment de culpabilité. Et le sentiment de culpabilité, c'est psychologique. C'est-à-dire un chien, un chat, développe le sentiment de culpabilité exactement de la même manière que nous. La partie de la vie psychique de notre vie, on a l'impression qu'on se justifie, que du coup ça va mieux. Et du coup on n'est pas responsable, on est victime. On est en dessous et on aboie un peu moins fort. Mais on n'en pense pas moins, c'est psychique. Et du coup, c'est vrai qu'on est très, 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 très loin de la vie spirituelle normale, humaine. Même sans être croyant, même sans être chrétien, même sans être des saints. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire des millénaires de l'humanité qu'on voit une humanité aussi profondément détruite qu'aujourd'hui. On a 5 générations freudiennes sur le dos. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire des hommes. Nous sommes, dans la génération d'aujourd'hui, dans un état lamentable. Sur le plan spirituel, c'est terrible. Les philosophes, vous le diront, les sociologues, il suffit de lire quelques textes de gens normaux, population moyenne, c'est pas moi, du 12e siècle, pour voir qu'ils étaient 100 fois plus intelligents et plus humains que nous. Jamais, jamais, on ne voit ces gens-là s'exprimer en disant « Ah, gna gna, j'ai été blessé, j'ai pas été assez aimé, c'est de la faute de mes parents, enfin oui, jamais, 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 toujours, et toujours ce souci d'être d'une noblesse intérieure, d'une responsabilité spirituelle, d'une vie contemplative, d'un amour fidèle. C'était impensable d'en vouloir à son prochain et de ne pas lui pardonner. C'était impensable en disant, après tout, c'est moi qui suis responsable s'il y a eu une petite quelque chose qui n'allait pas. Freud a fait beaucoup de travail. Et alors, oh, alors là, quand il s'agit d'Adam et Ève, alors là, des patriarches. Hein, quel est celui d'entre nous quand il en dit, mais voilà, c'est quand même pas de notre faute s'il y a eu le péché originel. Ça vient d'Adam et Ève, nous. Alors, personne d'entre nous, par rapport à ce qu'il est, cette tendance un petit peu à prendre ce qui n'est pas à lui, à dire des choses qui ne sont pas exactes, à exagérer les défauts des autres, à diminuer ses propres défauts, cette tendance à l'orgueil, à se magnifier, à s'humilier, cette tendance à aller dans la boue, parce que de toute façon, dans la chair. Et puis surtout sans justifier par l'arrogance et par l'apparence. Tout ça, c'est des séquelles du péché originel. Et à s'occuper à des choses secondaires continuellement, la vanité. Et ben, on s'y habitue à ça et on trouve que c'est normal. Et si ça devient insupportable pour les autres, c'est les autres qui sont les fautifs. Mais la faute n'est pas sur nous. Et quant à Adam et Ève, alors là, c'est vrai, après tout, c'est à cause de Adam et Ève. Mais non, le péché originel, c'est nous. Chacun d'entre nous a eu, dans le sein des saints, où Dieu nous a créés, il est apparu dans la vie avec une âme parfaite, hein, parce que l'acte créateur de Dieu se termine toujours à des puissances spirituelles parfaites et actuées, c'est-à-dire accomplies. Donc la liberté, la lucidité, l'amour, la capacité de savourer, de rendre grâce, de dire oui, est parfaite, complètement intérieure, pas la moindre trace de péché originel. Et ça, ça dure quand même. Et à un moment donné, quand même, il y a une perversion. Libre, on s'introduit par le trou de la serrure pour voir ce qui se passe lorsque on n'est pas dans cette unité lumineuse, savoureuse qui s'intensifie, qui grandit, qui se répand à l'intérieur de nous. Et il y a une petite curiosité par une porte noire qui produit un mouvement inverse en nous. Et c'est librement qu'on rentre dans ce péché originel. Adam et Ève n'y sont pour rien. Adam et Ève, ils sont quand même. Et Adam et Ève, il y avait un serpent quand même. Nous, dans le péché originel qui est le nôtre, notre participation, Satan n'était pas directement sur nous. Nous sommes inexcusables. Mais qui demande? Qui a pensé une seule seconde? Le péché originel a été une offense. Elle a été un véritable. Sicuts mesum vis-à-vis de notre Père Créateur, qui est toujours là, hein, qui est resté toujours là. Et c'est devant sa face, hein, qu'on a préféré avoir cette curiosité pour rentrer dans un mouvement, pour rentrer dans un mouvement inverse. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pas cet amour, vous voyez. C'est plus facile pour nous d'aspirer à Élie prophète qu'à Enoch. C'est sûr. Parce que Élie prophète, c'est sympa, il part sur un char de feu, tout glorieux, dégoulinant d'amour, libre, dans les frontières du paradis terrestre. Il revient au milieu de nous au moment le plus extraordinaire de l'histoire des hommes. C'est un contemplatif, c'est grâce à lui qui a vu la Vierge, tout. Il a compris tout de suite qu'il fallait faire Oraison être transformé en elle. Et il a fondé le Carmel 888 ans avant Jésus-Christ, avec cette intériorité de Marie, hein, la Vierge d'Israël, la compassion qui permet la restauration de tout dans le Messie. Ben, et lui, c'est quand même, et puis il extermine, il fait disparaître de sa seule présence toutes les choses impures, mauvaises, menaçantes. C'est Élie, c'est merveilleux, Élie. Et bien sûr que Élie, quelqu'un de merveilleux. Enoch, c'est plus difficile, parce que c'est plus proche, vous voyez, du Saint des Saints, de la paternité de Dieu que nous avons à éventrer, quoi. Le premier méchant, notre vie a commencé à faire un petit coup de poinçon, là, en disant, écoute, cette unité avec la paternité vivante de Dieu, cette liberté totale, totale, cette responsabilité de tout l'univers dans la lumière, on a préféré rentrer dans notre truc à nous. Voilà. C'est plus facile d'être une victime que d'être responsable du monde dans la lumière, librement. Alors, on va rentrer dans une vie stupide. C'est tellement stupide qu'on s'en sent coupable. Et comme on se sent coupable, eh bien on ne rentre jamais dans notre cœur spirituel pour retrouver notre liberté totale dans l'unité et notre vie contemplative. Et on trouve toujours des raisons. Et on est bien content d'avoir Freud pour dire, écoute, ne t'occupe pas trop de ton péché. Et si tu te sens mal, dis-toi bien que c'est normal. Et que c'est la faute des autres. Ça, c'est Freud. Alors, on rentre dans un monde psychique. On vit de manière psychique. Et on n'est même pas humain. Et il faut trop prendre conscience, et c'est vrai, que notre génération est la première qui a été si loin dans la détérioration du monde spirituel, même chez les chrétiens et surtout chez les catholiques, depuis des milliers d'années. Quand je parle de l'homme du Moyen-Âge, vous savez, quand vous regardez des films maintenant sur les Saxons, les Vikings, les barbares, Attila, qu'est-ce qu'ils étaient grégaires? Mais c'était beaucoup moins grégaire que nous. On a une vision dingue, fausse. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous de descendre comme ça et d'avoir un lien avec Adam. Parce qu'Adam et Ève ont prié toute leur vie. Ils ont vu dans la longueur des jours la Vierge et le nouvel Adam. Ils sont engloutis en eux toute leur vie. Ils ont vécu cette union transformante. Ils ont prié pour nous. Ils ont obtenu par exemple à Saint-Joseph cette surabondante présence du Rédempteur et de l'Immaculée Conception pour qu'il puisse immédiatement, dans cette surabondance, demander pardon. Les 9 premiers mois de sa vie sur la terre et tout le reste de sa vie. Cette porte s'est ouverte en Adam et Ève. Saint Joseph avait un lien d'amour et de gratitude inouï vis-à-vis de Adam et Ève. Inouï. Et avec Enoch, je suis sûr que Saint Joseph avait un lien très, très, très profond, très puissant avec Enoch. On raconte par exemple l'histoire que Adam et Ève, après le péché originel, pendant 100 ans, ils ont mis 100 ans d'amour, d'union transformante, à se rétablir de l'intérieur, dans les souvenirs d'une naissance divine originelle déchue, pour la rétablir dans une naissance divine qui est au-delà des péchés, de la grâce du péché originel, ils sont rentrés dans une unité sponsale, dans le nid verdoyant de l'au-delà de la réalité spatiale. Et là, ils ont compris qu'ils avaient échappé, qu'ils échappaient là. Ils échappaient là à toutes les séquelles du péché originel. Ils y sont pénétrés, ils ont mis 100 ans à trouver ça. Et sur les plateaux aujourd'hui qu'on trouve en Éthiopie, ils se sont retrouvés au bout de 100 ans. Et pour la première fois, ils se sont étreints dans un amour qui a été dans l'au-delà de l'unité spatiale et qui échappait dans l'au-delà de l'unité des deux aux séquelles du péché originel. Et ils ont conçu. Dieu a donné une bénédiction palpitante qui avait été retirée d'Adam dans leur unité spatiale. Et ça a donné Abel, alors du coup le Messie, le Verbe créateur du monde, dans cette bénédiction a pu s'introduire en, dans toute la vie d'Abel. Et Abel, du coup, a laissé librement le Messie s'exprimer en lui et s'offrir en holocauste brûlant d'amour. Il a été offert en holocauste brûlant d'amour pour la rédemption du monde jusqu'à la fin. Le Messie, le Verbe de Dieu, a pu vivre dès Adam et Ève cette oblation dans un engendré de bénédiction primordiale. Et c'est de là que nous sommes issus d'Adam et Ève dans une bénédiction primordiale, une sainteté inouïe. Et cela a donné au fur et à mesure. Cela a donné au fur et à mesure les générations. Il ne faut pas croire que les générations qui ont suivi. Il ne faut pas croire que les générations qui ont suivi étaient des générations d'homo sapiens néandertaliens. Mais c'est une honte. Saint Thomas d'Aquin explique de manière parfaitement claire et puis parfaitement simple, parfaitement évidente que jamais la nature humaine n'a été aussi parfaite. Elle a été parfaitement accomplie, épanouie dans les êtres humains qui par myriades ont été créés par Dieu. Elle n'a été accomplie parfaite que dans quatre personne. Jésus, Marie, Adam et Ève. Et en plus, quand vous voyez Abel, on prononce à chaque messe Abel le juste. Il est ajusté à la présence primordiale du Verbe de Dieu, assumant toutes les possibilités d'amour dans le monde et créant le monde messianique de douceur et d'adaptation à chacun dans le Père. Et à cause de la bénédiction d'Adam et Ève et leur immense noblesse royale, messianique, rédemptrice, et ce souci d'amour pour réparer tous les péchés du monde futur, cette bénédiction palpitante se trouve en lui. Et Jésus, ce qui se passe à l'intérieur de Jésus sur la croix, pour la première fois vit sur la terre un appel lorsqu'il est offert comme un agneau. Une oblation sainte qui traverse tous les temps futurs jusqu'à la fin et qui engendre une bénédiction sur Adam et Ève qui vont engendrer des noblesses de lumière, de responsabilité du monde et d'amour tellement grande que du coup il ne meurt pas. Ce qui montre bien qu'il y avait quelque chose du corps originel et du corps spirituel qui palpitait à l'intérieur d'eux pendant que les filles de Caïn allaient chercher autre chose en allant s'approcher des démons et des bêtes et faire le lien entre le monde de la bête, le monde psychique, le monde de Satan, la justification du péché, et leur monde à elle, pour séduire, et devenir les reines du péché. Et Jikus Mejorum. Et elles ont engendré quand même des choses terribles. Parce que le mélange entre le monde psychique et animal, le monde de l'humanité déchue, le monde de Satan, ça a produit des monstres. Et les premiers apôtres et les premiers chrétiens ont dû se battre contre ces monstres La Tarasque, c'était un vrai monstre. Que Marthe, la sœur de Lazare, a dû terrasser, tuer les Saint-Georges. C'est pas des légendes. Mais pendant que les filles de Caïn ont produit cette espèce de bouleversement du monde, de l'humanité, jusqu'au point que finalement ça a fini par infester tout le monde et produire l'horreur du Sikoutim Mesomem de l'époque, et du coup il y a eu le déluge. Mais Adam et Ève, et puis leur descendance, Sem, Jam, Japhet, quelle sainteté, quelle pureté. Et au bout de 5 générations, ça s'est affiné. Et puis il y a eu Enoch. Et au bout de 5 générations, une croissance, il y a eu un respect. Et ils se connaissaient mutuellement, puisqu'ils vivaient ensemble. N'est-ce pas? Mathusalem, c'est des personnes qui ont vécu longtemps. Hein. Et à tel point, du coup, que comme Élie le prophète avait vu la Vierge arriver, et lui expliquant comment sa noblesse à lui pouvait rentrer en affinité avec celle de la Vierge immaculée. Enoch, pareil, s'est trouvé comme ça dans la vision angélique. Et cette complicité angélique, lumineuse, glorieuse, bénie, adorante, il a manifesté les sommets et il a vu le trône. Il a vu le trône dans le fond du ciel, des lointains. Il a aspiré par la foi. Il a vu, il a entendu. Il a voulu toucher, il a aspiré par la foi pendant des dizaines d'années, pendant un siècle, pour nous. C'est lui qui a ouvert le chemin du miracle des trois éléments dans l'humanité tout entière et en nous. Ce trône, vous avez compris que ce trône est évidemment, vous le savez bien, puisque vous avez tous lu l'Apocalypse et lié à Saint-Joseph, glorieux, instrument pur de la première personne de la Trinité. Et du coup, du dedans du trône, la présence parfaite, accomplie, divine, d'Adonai Elohim, vivante, lui a été révélé, donné par la médiation du monde angélique. La vie d'Enoch est une vie extraordinaire. Ce n'est pas un homme de Néandertal. Ce n'est pas un homo sapiens, une cuisse de poulet. Avec un gros gourdin, pas du tout. C'est nous qui sommes comme ça. Parce que tant que ces patriarches nous voyaient à l'avance, nous, dans l'état dans lequel on est, ils seraient effondrés. C'est quoi? Ils ont une vie intérieure qui ne va pas plus loin que la vie du chien et du chat. Oh, le chien et le chat, tu fais un chapeau. On voit très bien quand le chien s'en va comme ça. Il dit oh, c'est pas de ma faute. Et on vit tous comme ça. On est psychique. On n'est même pas humain. Alors après, on dit, oh, les chrétiens, oui. On a vu des miracles. Donc on est chrétien. Vous avez vu des miracles, donc vous êtes chrétien. Mais si vous êtes psychique, vous n'êtes même pas humain. Et pourquoi il m'a regardé comme ça? C'est vrai. Et pourquoi il m'a dit ça? C'est psychique, ça. C'est pas humain, ça. C'est débile. Parce que Enoch, faut comprendre, immense. Faut pouvoir, avec la messe, vous savez, par la foi, c'est extraordinaire la foi. Parce que par la foi, je peux sortir de la vanité, c'est des choses vaines, secondaires, et rentrer dans la substance des choses. Habiter les temps anciens, les temps actuels et les temps futurs. Et dans l'unité du temps, de l'instant présent, assister à la création originelle. Je peux assister à l'instant de ma naissance dans les mains de Dieu, dans celle de ma mère. Je peux assister par la foi et voir de l'intérieur ma naissance. Je peux assister par la foi à cette invasion du Saint-Esprit à l'intérieur de Marie au pied de la croix, dans le Paraclet, première Pentecôte. Je rentre en elle et je le vois. Oh, je suis englouti, si c'est pas, mais je vois. Oh là là, mais je n'avais jamais perçu surnaturellement. La foi me permet d'aller à la rencontre du Christ sur les nids du ciel et d'anticiper et de le voir. Hein. Ma foi me permet, mais ma foi me permet aussi de rentrer dans le cœur de nos parents pour les vénérer. Pour les vénérer. Pour vénérer ma mère. Pour vénérer mon père, pour vénérer, avoir de la vénération pour son prochain. C'est pas un mot qui nous est très habituel. Chaque matin, aller voir mon père, je sais pas si vous avez des enfants, est-ce que vos enfants, chaque matin, dès qu'ils voient leur père, ils aspirent à voir leur père, parce qu'ils avaient... Et dès que papa apparaît, on se précipite, on dit « Papa, je te vénère ». Est-ce qu'on a été éduqués à ça? Non, non. S'il y a un papa qui arrive, on t'adore. Et ma mère, si tu savais ce que j'ai subi avec les parents... On est psy, quoi. Freud, il a pris le sécateur et puis castration du père. Complexe de type. Allez, hop, je la coupe. Il dit, c'est pas mon père. C'est ce visage que nous avons. On est formé par ça. On est imbibé de ça. La réaction incontrôlée, c'est la nôtre, c'est celle-là. On est complètement psy. On n'est pas du tout spi. Or, c'est dans le monde spirituel que pénètre la grâce surnaturelle. Donc la réconciliation, c'est pas la réconciliation, c'est la rencontre avec Enoch. C'est quelque chose de très grand, parce que c'est la réconciliation avec ces cinq générations sublimes qui ont fait la noblesse de l'univers tout entier, dans la liberté aspirante de l'humanité originelle, primordiale. L'Église primordiale est née là. Cette Église primordiale palpitait à l'intérieur d'Ena, dans toutes les cellules de sa chair, de son corps, de sa vie contemplative, de sa sagesse, de sa Jérusalem pacifique, pacifiante pour tous les âges futurs, pénétrant le miracle des trois éléments. Et il a vu de l'horizon la paternité agrée de Dieu au-dessus de toutes les hiérarchies glorieuses angéliques. Il l'a vu parce que sa sainteté et sa noblesse étaient immenses. Et son amour pour nous, nous le vénérons, Enoch. Et à tel point du coup qu'il a entendu et la révélation ultime du monde, du nom d'Elohim, de l'imprononçable, c'est-à-dire de la présence actuel, accompli dans tous les temps et dans toute l'humanité du Père, du Verbe, de l'Esprit Saint, trois en un endroit, et bien, s'est manifesté à lui. Et il a entendu le nom d'Elohim, s'il a été révélé, Yah, l'imprononçable, Yah, Le Père, l'épousait. L'unité totale accomplie de Dieu dans l'aspiration. Très au-delà de toute la vastitude sans limite du monde angélique glorieux, il a été révélé. Et du coup, à sa mort, il a été emporté par toutes les hiérarchies angéliques au sommet de leur couronne glorieuse dans la paternité concrète de Dieu, de toutes les possibilités d'amour qui devaient s'ériger dans le temps. Et il a été emporté là, au sommet du ciel empyré, dans un trône qui est l'icône de ce que Joseph devait être dans la paternité agréée de Dieu comme sacrement de la dormition dans l'Assomption de Marie, où le Verbe de Dieu ressuscité devient épousé en lui époux dans la chair de toute chose. Il y a un lien très fort entre Joseph et Enoch. Et c'est pour ça qu'on célèbre. Je propose qu'on célèbre la messe pour que il y ait par un espèce de miracle gratuit de Dieu, un don en nous, quelque chose qui tombe comme une petite goutte d'eau, toute pure, toute limpide, toute cristalline, toute diamantée. Ce lien direct avec Enoch en nous. Cette vénération, c'est plus qu'une vénération, c'est un lien très fort, un désir inouï d'être comme lui. D'être un instrument pour l'unité angélique de toute la gloire du Père dans l'humanité finale et accomplie de l'Église à travers nous. Et petit à petit, on va peut-être redevenir humain. Et du coup, l'Eucharistie va pouvoir prendre toute sa place dans le monde à travers nous. C'est plus qu'un exorcisme. Ben, si vous voulez. Hein. Si vous voulez continuer dans la vie canine et chatoyante des hippopotames. Et je propose quoi qu'il y ait une vénération pour l'humain. Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa. La parole qui donne la paix déjà retentit, le salut annoncé est au milieu de nous, que la discorde, la haine s'éloigne de nos cœurs, que l'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester. Amen. Celui qui est, qui était.